Driving Seal, drive as fast as please. Return to your cars. Driving Seal.
Being able to lead the parade. Can you guess how he did it?
Upside down.
Upside down, of course. The end. Okay, let's turn off the light and go to sleep now.
Quand je regarde en arrière, je me dis que ce n'est pas Microsoft qui a fait l'ère informatique. C'est plutôt l'ère informatique qui a fait Microsoft. Comme d'autres, on a surfé sur la vague. La mer est houleuse. Plusieurs fois, on a failli tomber à l'eau. Mais la déferlante grossit. On va toujours plus haut. Et le chaos redouble. C'est fort.
It's almost 8 o'clock. Good morning. I'm Dave Myers.
Since the late 80s, thousands of Microsoft workers, many of them pioneers in the PC revolution, exercised their stock options and left the company to begin an independent existence.
Today is Tuesday, May 1st, from NPR News. This is Morning Edition.
Mon premier PC. En 1977, un ordinateur Heathkit H8. Comparé aux ordinateurs modernes, c'est un jouet. À l'intérieur, c'est un ordinateur de 64K. Quand je l'ai acheté, j'avais 8K, ce qui suffisait pour faire tourner le langage de programmation basique écrit par Bill et avec lequel il a fait fortune. Je me suis bien amusé avec cet ordinateur et c'est grâce à lui que j'ai été embauché chez Microsoft.
Come on in, there's nothing going on. Here, I'm putting you on speaker. Still there?
Yep.
Sheet Music Store. Hey, look at this. There's some Easter stuff going on.
Yeah, people
bond. Dang, Ashmere. Please go for coffee. You'll be booted up in 15 minutes or less. Certainly the most important.
Le projet le plus important sur lequel j'ai travaillé chez Microsoft, c'est Windows 1.0.
Shake it up, baby, now.
J'ai commencé en janvier 1982. J'étais là depuis une semaine. J'avais écrit un bout de programme pour afficher quelque chose sur l'écran de l'ordinateur. Et il y avait un bug. Mon programme était très court. Il faisait à peu près 5 lignes. Et j'ai compris que le bug n'était pas dans ce que j'avais écrit, mais dans le langage basique que j'avais utilisé pour l'écrire. Puisque c'est Microsoft qui avait écrit le basique, je suis donc allé le signaler à mon chef. Il m'a demandé si je savais résoudre le problème. Alors j'ai dit oui, ça ne devrait pas être compliqué. Finalement, ça n'a pas été aussi simple que je le pensais. J'ai travaillé dessus pendant près de 2 semaines avant d'en venir à bout. Une fois que j'ai trouvé, j'ai fait venir tout le monde dans mon bureau pour montrer qu'avec ma solution, ça s'affichait correctement sur l'écran, ce qui n'était pas le cas en basique. Bill Gates avait son bureau en face du mien, et je l'ai arrêté dans le couloir. Il est venu voir ce que j'avais fait sur l'écran et il a dit « Oui, c'est intéressant, ça fonctionne. Est-ce que ça marche aussi pour ce genre de choses ?» J'ai dit « Bien sûr, ça a corrigé ce programme qui était foireux. Maintenant, ça marche. » Il a fait, oui, c'est intéressant. Et puis il est parti. Mon chef était sur le pas de la porte et il hochait la tête. Il m'a demandé, tu sais qui a écrit le programme d'origine avec le bug? J'ai répondu que non. Alors il m'a dit que c'était Bill en personne. Et je me suis dit, oh non, je n'ai pas encore touché ma première paye, que j'ai déjà fichu la honte au patron.
Je ne sais pas. En fait, j'adore programmer. Pour moi, il y a un côté artistique là-dedans. Créer un programme ou une fonction, c'est comme travailler de l'argile, modeler, donner une forme. Vous imaginez à quoi ça devrait ressembler et très vite, vous obtenez le produit fini.
Qu'est-ce que ça a d'excitant de programmer? Eh bien, ça donne un énorme sentiment de puissance, de création. Ça donne un contrôle absolu sur ce que fait la machine. On lui dit, fais ça, et elle le fait. Elle ne pose pas de questions. Elle ne tergiverse pas. On lui fait faire ce qu'on veut.
C'est un plaisir immédiat. Quand on trouve, après s'être battu avec le clavier, à se demander ce qui se passe, tout d'un coup, ça marche. J'ai réussi. Je suis le meilleur.
Comment dire? Écrire des programmes, c'est toute ma vie. Je me souviens de ce lundi matin où, pour la première fois, je n'ai pas pris ma voiture pour traverser le pont et aller bosser. À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché le meilleur boulot de ma vie. Et je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire.
J'ai travaillé chez Microsoft du 23 mai 1983 au mois d'août 1992. De l'autre côté du lac, sur la colline d'en face, on voit les bâtiments Microsoft à Redmond. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, on tenait tous dans un seul bâtiment. Après, ils en ont construit 4 autres, puis 30, 40, 50, je ne sais plus combien. Ça s'est développé de façon incroyable, même depuis que je suis parti, il y a maintenant 9 ans. J'avais très envie de m'installer au bord de l'eau. Et pourtant, j'ai du mal à quitter ce quartier parce que j'y ai vécu 11 ans et demi. Pour Halloween, on voit débarquer 300 ou 400 gamins. On aime bien leur faire peur. C'est dur de quitter un quartier aussi agréable. On a une belle vue d'ici, encore mieux que depuis la maison au bord de l'eau. Ma mère n'habite pas loin, et chaque fois que je venais chez elle, je voyais cette maison en construction. Je n'ai pas pu résister.
Mosquitoes cables.
Look at that. Wow.
Lots of cables.
Uh-huh.
That's surge protected. Surge protected.
Mm-hmm.
There might actually be a computer in here someday.
We haven't decided what we're going to do in this arch area up here. The decorator has a few ideas.
I like the idea of, and Bill created the personal computer.
Oh.
Thanks, Bill.
Mm-hmm.
Everybody wants to be...
Tout le monde a envie de devenir riche,
wants to be retired,
de prendre sa retraite.
There's a certain amount of guilt.
Mais quand on y est, on ressent un peu de culpabilité.
You know, for, to
c'est difficile de dire « je suis à la retraite » à quelqu'un qui doit aller travailler ce jour-là et qui arrive à peine à joindre les deux bouts. On ne peut guère se permettre de dire qu'on a de l'argent. Cette maison, c'est mon premier signe extérieur de richesse. Et c'est ce qui m'a gêné quand je l'ai acheté. Ça devenait évident que j'avais un bon paquet de dollars. Tout le monde a envie d'avoir de l'argent, mais j'ai l'impression aussi que la plupart des gens sont un peu contrariés quand ça vous arrive. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? C'est un peu le hasard.
Ce qui me gêne le plus, je crois que c'est quand je rencontre des gens et qu'ils me demandent « qu'est-ce que vous faites ?» Je n'ose pas leur dire que je suis à la retraite. Parce qu'ils sont tout de suite jaloux. Ou alors ils te prennent pour un nul. Ou ils croient que tu as hérité d'une fortune et que tu n'as pas envie de bosser. Alors je réponds que je suis consultant en informatique. Ce qui n'est pas faux puisque je fais un peu de conseil parfois. La seule différence, c'est que personne ne m'oblige à le faire et que je n'ai pas besoin de ça pour payer mes factures. C'est ma façon à moi de gérer la situation.
Je dis que je travaille dans l'informatique, et si on me pose des questions sur Microsoft, je réponds que j'ai bossé pour eux, oui. Mais je ne dis pas que je ne travaille pas très souvent.
Ça n'a pas été facile de monter une start-up en l'an 2000. Sunhawk est une boîte de distribution de partitions musicales numériques. On scanne les partitions et on les met en ligne sur Internet. Je vous fais visiter les locaux de Sunhawk. Le principe, c'était que la direction ait ses bureaux le long de ce mur. C'est un peu comme une ville fantôme. Vous verrez comment tout ça a été pensé au départ. Ici, dans ce coin, il y avait les programmeurs. Ils étaient chargés de concevoir les programmes du serveur, celui qui diffusait la musique sur le net. C'est un peu le cimetière des machines. Là, ce sont les ordinateurs des gens qui préparaient les partitions et tout le matériel dont on avait besoin. De ce côté-ci, vous avez le matériel marqué d'une étiquette rouge. C'est tout ce qui a été mis dans l'inventaire des choses à vendre. Et par là-bas, il y a une petite cuisine où les employés pouvaient venir grignoter pendant les heures de travail. C'est à peu près tout ce qui reste de Sunhawk. Le plus dur pour moi, ça a été de réaliser que si je quittais Microsoft pour aller créer ma propre boîte, je perdais beaucoup de la crédibilité que j'avais quand je représentais Microsoft. Désormais, je savais que je ne parlerais plus au nom de Microsoft, mais d'une obscure boîte inconnue de tous. J'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. C'est sûrement ce qui pousse beaucoup de gens à rester là-bas. Ils savent qu'ils font partie d'une machine énorme, mille fois plus grande que tout ce qu'ils pourront jamais créer.
Ça ne me plaît pas tellement, cette expression « être à la retraite ». Je ne me sens absolument pas retraité. Je suis toujours aussi actif qu'à l'époque où je travaillais chez Microsoft, si ce n'est que je ne suis plus obligé d'aller tous les jours au même endroit et de faire le même boulot. Je suis bien plus impliqué qu'avant dans des choses qui comptent beaucoup pour moi dans le domaine de la protection des forêts et au niveau de mon quartier. Comment voulez-vous que je sois à la retraite à 28 ans? C'est le mot qui ne passe pas.
What did Grandma have to say for herself tonight?
Well, I'm really not sure.
Why? Was Dan in there?
Koki, you'll have to tell Hi'ilani happy birthday for me, okay? Because I'm not gonna be able to go to the party.
Why?
Because on Saturday morning, I've got some newsletter folding to do for the Wedgwood community. And then after that, Jim McDermott is gonna be over at Meadowbrook, and I'm gonna go.
He is?
Yeah.
Oh.
He's got a community meeting.
Oh.
He's the, you know who Jim McDermott is, Koki? He's a representative to Congress in Washington, D.C. for this area of Seattle.
Oh, neat.
So I'm gonna go ask him a question. Koki was real interesting. When I started, I really was very
naive. Quand j'ai commencé, j'étais très naïf pour ce qui est de la rémunération, du salaire que je pouvais demander. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était que les stock options. On m'en avait accordé 3000. Par option, on entend la possibilité d'acheter une action au prix qu'elle coûtait au moment où on a été embauché ou quand l'option vous a été donnée. Ce qui fait que ces 3000 actions ont augmenté plusieurs fois parce que le capital a augmenté plusieurs fois. Quand j'ai compris que je pouvais quitter Microsoft et vivre avec l'argent que ces stock options allaient me rapporter, je me suis posé un problème de conscience. Tout cet argent, je ne l'avais pas vraiment gagné. C'était clair que la chance y était pour beaucoup. Ce qui fait que je n'ai pas l'impression que cet argent m'appartient à 100%. Et je me sens un peu obligé de l'utiliser de façon à en faire profiter d'autres personnes que ma famille. C'est l'une des raisons qui fait que je me suis engagé dans cette association de protection de la forêt et que je cotise aussi à plusieurs autres associations.
Hey, I think the sugar bugs think they're getting away.
Okay. Oh no, he found us. Oh no, the sugar bugs are getting washed away.
I think there's a lot of people who would not consider me and Penny.
Pour beaucoup de gens, Penny et moi, on n'est pas riches, comparé aux standards de Microsoft.
But for me,
pour moi,
the magic number,
le chiffre magique. Disons qu'un demi-million de dollars, ça me suffisait largement pour quitter Microsoft. Je ne savais pas si ça voulait dire que je ne retravaillerais jamais. J'imaginais que non, mais ça me semblait être un bon chiffre à atteindre. Pour beaucoup de gens, il faut un million de dollars. Pour d'autres, le chiffre magique, ça peut être 2 ou 5 millions de dollars. Au moment où je suis parti, la situation en bourse était très favorable et j'ai pu partir avec plus que ça. Quand j'ai quitté Microsoft, j'avais à peu près 3 millions de dollars en stock options. Pendant la dernière année, je l'avoue, je regardais tous les jours le prix des actions pour voir où ça en était. Au bureau, on avait un système de courrier électronique qui permettait de vérifier le cours des actions après la fermeture des marchés. Du coup, je regardais très souvent, comme beaucoup d'autres gens.
D'un côté, oui, je suis content d'avoir gagné beaucoup d'argent. Mais d'un autre, j'en veux à tous ceux qui considèrent que c'est grâce à Bill que je suis devenu millionnaire. Pour moi, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est grâce à moi que Bill est milliardaire. Et s'il a fait autant d'argent, c'est grâce au travail que j'ai fourni et à celui de beaucoup d'autres gens dans la société. Microsoft, ce n'est pas Bill tout seul. Ce n'est pas Bill qui m'a fait gagner de l'argent. C'est toute l'équipe qui s'est enrichie. Et Bill a empoché encore bien plus que tous les autres.
The car. Here you go.
There probably isn't a night.
Il ne se passe pas une nuit sans que je me demande pourquoi je suis parti monter une nouvelle boîte. Mon idée, c'était d'allier mes deux centres d'intérêt, l'informatique et la musique. Au total, je n'ai plus de temps ni pour l'une ni pour l'autre. Je passe ma vie avec les avocats, à gérer des procès, à rencontrer des investisseurs, des banquiers.
J'ai rencontré Dave chez Microsoft quand j'avais 28 ans. C'était en 1988. J'avais été embauchée pour écrire des didacticiels pour le groupe Word. J'ai travaillé pendant 6 ans dans le même service jusqu'en juin 1994. Puis je suis partie. On travaillait tellement chez Microsoft, notre rythme de travail était tellement soutenu comparé à ceux qui peuvent organiser leur journée comme ils l'entendent, que ça a commencé à me peser. J'ai réalisé alors que beaucoup de gens, à commencer par moi, s'identifiaient complètement à leur travail. Et quand tu leur dis que tu prends ta retraite alors que tu as la trentaine, ils ne comprennent pas. Mon emploi du temps, c'est celui de Koki. Tout simplement parce qu'il faut la conduire à ses activités et aller la chercher. Le lundi et le mercredi matin, elle a un cours de danse et un cours de dessin. Après ça, l'après-midi, elle suit un programme de préscolarisation de 2h30. Entre les deux, on déjeune ensemble. Puis, je vais la rechercher vers 15h30. Depuis peu, un mois ou deux, je l'ai inscrite à un cours de gym parce qu'elle adore l'idée de pouvoir contrôler ses mouvements.
See you in a little while.
We have to do a little work above the shop. Right, we got the two columns going up. You know, we got the bookshelves, we got the TV space, right. And we have all that hollow space there.
That hollow space?
Is that
space?
Above or below the fire stop in the columns?
J'ai cette maison depuis un an et demi. Je l'ai achetée en septembre 1999. Maintenant, je vais pouvoir m'installer dedans. Là-bas, vous avez la cuisine. Vous me direz pourquoi faire une cuisine. Je n'en sais rien. Il y a un McDonald's un peu plus bas et au rythme où je cuisine, ce sera plutôt McDo. Montons à l'étage. On est ici dans la chambre numéro 3. Je l'appelle comme ça parce que c'est ce qui est écrit sur le plan de la maison, chambre numéro 3. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Une chambre pour rien. Pour moi, c'est la pièce avec la porte-fenêtre, parce que ça la différencie des autres. Maintenant, on se dirige vers la chambre des grands-parents. Là encore, je l'appelle comme ça parce que c'est ce qu'on a sur le plan. C'est une autre chambre, pas trop grande. On peut faire un détour par la salle de bain et visiter la dernière chambre où je vais passer un temps fou, parce que c'est là que j'installerai mon ordinateur. Celle-ci, je ne l'utiliserai sûrement pas comme bureau, mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Tout ce qui est boulot, ce sera à l'étage, dans la salle d'informatique. Ça me servira juste à ranger des dossiers. Et voilà, ça nous ramène à la cuisine. Normalement, vous devriez être complètement perdu. On ne peut pas circuler dans cette maison sans se perdre. Ah, j'oubliais le bar.
Qui va habiter ici?
Qui? Moi. Et c'est tout. Personne d'autre. Du moins pour l'instant. Je dis toujours pour rire, à quoi ça servirait d'acheter des meubles? Un jour, je me marierai et elle voudra tout jeter. Là, pas de chance, j'ai acheté des meubles et il faudra qu'elle jette les siens. À moins qu'on trouve un compromis.
Vous voulez des enfants?
J'y pense parfois, mais je commence à me faire vieux. J'aimerais pouvoir jouer avec mes mômes avant de me retrouver sur un fauteuil roulant. En fait, oui, j'aimerais bien en avoir. Mais en aurais-je, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Rien ne nous empêche de passer au salon. Bill a toujours dit qu'il voulait des gens avec un bon niveau d'études parce qu'il avait lu quelque part que ces gens-là recrutaient des gens comme eux, alors que des gens moins formés se sentaient menacés et qu'ils avaient tendance à recruter des gens encore moins formés qu'eux. Donc son idée, c'était de constituer une équipe avec des gens d'un bon niveau d'études.
Il y a des tas de façons d'être un bon employé Microsoft. Mais si je me mettais à la place du patron, je rechercherais surtout la rentabilité. S'il fallait définir le profil, je dirais quelqu'un dans ma situation quand j'ai commencé. Jeune, sans femme et sans enfant. C'est clair qu'on ne peut pas poser ce genre de questions pendant l'entretien. Ce n'est pas un critère. Mais s'il fallait que je décrive ce qu'on pourrait appeler le profil idéal de l'employé Microsoft, il serait jeune, sans enfant, prêt à faire un maximum d'heures, blanc, de sexe masculin. C'est l'image que j'en ai.
Quand je suis arrivé dans la boîte, je faisais déjà figure de papy. J'étais un vieux, j'avais 27 ans. L'âge moyen des employés, c'était 22 ans. Et un jour, je me suis rendu compte que les années tournaient, que j'approchais des 35 ans, mais que pendant ce temps, l'âge moyen des employés n'était passé que de 22 à 24 ans. Je vieillissais plus vite que l'entreprise. L'explication, c'est que la boîte doublait pratiquement de volume chaque année. Et à chaque fois, une nouvelle fournée de gamins de 20 ans venait grossir les rangs. Si bien que l'âge moyen restait très bas avec tous ces jeunes diplômés qui voulaient prouver de quoi ils étaient capables. À côté de ça, il y avait des vétérans comme moi qui n'étaient pas prêts à suivre la cadence.
J'ai commencé à travailler chez Microsoft en 1989, à 22 ans. Au départ, je n'avais pas envie de travailler pour eux. J'avais un Macintosh et j'étais un inconditionnel. Pour moi, Microsoft, c'était l'empire du mal, dès 1989, bien avant que ça ne devienne à la mode. Microsoft avait une réputation de médiocrité qui vaut encore aujourd'hui. J'ai passé un entretien avec eux et j'ai fait bonne impression, si bien qu'ils m'ont payé un billet d'avion pour que je vienne à Seattle. Et là, je suis tombé complètement amoureux de la boîte. C'était le rêve pour un programmeur, un peu comme à la fac. On avait tous un bureau et tout le monde venait discuter avec les uns, avec les autres. Tous les gens les plus forts étaient là. Il y avait un campus magnifique, des boissons à volonté, c'était exactement les conditions dans lesquelles je rêvais de travailler. 10 minutes après être arrivé sur le campus, j'étais complètement séduit.
Ils embauchaient des gens qui venaient de passer leur licence et ils les faisaient venir des quatre coins du pays pour les regrouper à Seattle. Si bien qu'ils se retrouvaient là sans famille, sans amis. Les seules personnes qu'ils connaissaient, c'était leurs collègues de bureau. C'est avec eux qu'ils allaient au ciné le soir. Mais après le film, au lieu de rentrer chez eux, ils revenaient au bureau pour pondre quelques lignes de code. Et ils se retrouvaient à bosser du matin au soir sur leur projet.
Si quelqu'un disait « Désolé, je ne veux pas rester le soir au-delà de 7 heures » ou « Je ne veux pas travailler plus de 70 heures par semaine », il pouvait le faire. Mais personne ne le faisait. C'est intéressant parce que ça montre bien que ce n'était pas acceptable dans cette culture. Ça ne veut pas dire que les gens avaient peur de se faire virer, mais plutôt qu'ils voyaient que tous les autres bossaient dur, alors ils faisaient pareil.
Dans les premiers temps, on préférait embaucher un type débrouillard, même s'il avait peu de connaissances, plutôt que l'inverse. À mon avis, ça venait plus de Steve Ballmer que de Bill Gates, bien que Bill Gates soit assez agressif lui aussi. Steve Ballmer avait tendance à pousser les gens. Il voulait des types battants, qui savaient ce qu'ils voulaient. Et si Microsoft a ce côté, je dirais, arrogant, ça tient en partie à la politique d'embauche et à la façon dont c'était mené par Steve Ballmer, autant que par Bill.
very upset. This is Bob Herbold's first company meeting. The man said $5.9 billion. Let's hear it now!
Ils recherchent des gens souples, créatifs, capables de résoudre les problèmes, des gens sur qui on peut compter. Les entretiens Microsoft sont devenus célèbres et beaucoup d'autres boîtes font maintenant la même chose. En général, après 4 ou 5 heures d'entretien, le candidat est complètement lessivé. Il a le cerveau vidé. Il est épuisé et il perd une grande part de confiance en lui. Mais on peut apprendre beaucoup de choses sur le candidat dans ces conditions-là, parce que c'est comparable à une très longue journée de travail où on attend que tu donnes le meilleur de toi-même, que tu résolves des problèmes en état de stress. C'est dans ces conditions-là qu'on voit si un candidat fait vraiment l'affaire. Quand on se rapproche du moment où il va falloir livrer un produit, on entre dans ce qu'on appelle la phase critique. Et c'est le moment où rien ne va plus. Le planning qui prévoyait exactement 9 mois pour finaliser le produit se révèle largement dépassé. Et quand il ne reste plus que 2 mois, tout le monde réalise qu'il y en a encore au moins pour 5 mois de travail. Le nouvel objectif, c'est donc de faire en 2 mois le travail de 5. Et puis, un mois passe, et là, il reste 4 mois de travail à faire en un mois. Les heures commencent à devenir longues, les esprits s'échauffent. Il ne reste plus que 2 solutions. Soit on repousse la date de livraison, soit on réduit le nombre des prestations. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus repousser les délais parce qu'à ce stade-là, tout est déjà prévu pour la sortie. Quand j'ai travaillé sur Microsoft Works, on devait rendre une version en septembre parce qu'IBM prévoyait de la fournir avec ses PC. Et on ne peut pas lâcher IBM sur un contrat qui se monte à quelque chose comme 200 millions de dollars. Il fallait donc livrer en septembre, coûte que coûte. Et là, il y a des gens qui font des miracles, et parfois même de véritables prodiges. À ce stade-là, on commence à s'accommoder des défauts. Quelques mois plus tôt, on aurait dit « Oh non, on ne peut pas laisser ça comme ça ». Mais à ce stade, on se dit « Du moment que le truc n'explose pas, on devrait pouvoir le livrer ». Chacun révise ses exigences à la baisse. Ça peut être une expérience géniale, très fédératrice, de travailler dans ces conditions. C'est un peu comme en temps de guerre, la solidarité. On se met tous au service de la patrie. Et là, tout le monde travaille pour livrer le produit. Tout le monde reste tard, on mange ensemble, la société commence à payer les repas. C'est pizza ou plat thaïlandais tous les soirs. Mais ça peut devenir aussi une vraie galère si ça dure trop longtemps. La plus grosse galère a sans doute été Windows NT. Ça a duré pas loin d'un an et c'était vraiment terrible. Les gens quittaient la boîte, ils n'en pouvaient plus.
C'est les cadences infernales. Les types se tuent à la tâche et pour les nouveaux qui arrivent dans cet environnement, ça les pousse à entrer en compétition avec les autres. Ils ont envie de tenir le rythme. Et comme il y a un arrivage constant de jeunes loups prêts à faire leurs preuves, ça met une pression énorme. Et c'est un rythme qui peut être fatal pour certains.
Thank you.
were friends.
On est copains.
He was my boss.
C'était mon chef.
J'ai dirigé son équipe. Je suis celui qui est arrivé après et qui s'est retrouvé assez vite à diriger le groupe. C'est moi qui lui disais ce qu'il devait faire.
Par contre, moi, je faisais partie de la toute première équipe de Windows. J'étais donc un peu le dépositaire d'un savoir.
Notre boulot consistait à faire sortir des lignes, du texte ou des trucs graphiques sur écran ou sur imprimante. On a fait ça pour différents systèmes d'exploitation au fil du temps. Walt travaillait sur Windows, par exemple.
Windows 1.0.
Depuis la toute première version de Windows.
Tu as bossé sur les versions 2.0, 2.01, 2.02, 2.03.
Et ensuite sur OS 2, et pour finir sur Windows NT.
Pourquoi êtes-vous parti?
Vous voulez la version officielle ou la vérité? J'étais devenu un légume. On parle de l'angoisse de la page blanche chez les écrivains. Moi, je n'arrivais plus à programmer. On avait même donné un nom à cette maladie. On l'appelait la maladie de Waldheimer. J'étais devenu incapable de programmer. Je ne sais pas si ça tient vraiment à ça, mais c'est entre autres à force de vouloir trop bien faire. Je me disais, il faut que j'améliore ça, je vais essayer de faire un truc parfait. Et quand on part dans cet esprit-là, on n'est plus capable d'écrire la moindre ligne de code.
À l'époque d'OS 2, il avait déjà perdu les pédales. On avait besoin de tel driver, de tel programme, et on ne le trouvait pas. Il fallait attendre que Walt ait fini. On se demandait pourquoi c'était si long. Une ou deux fois, j'ai dû envoyer Steve Ballmer dans son bureau. Steve montait et l'encourageait.
C'était pas marrant comme situation.
Quand il travaillait encore pour moi, c'est devenu vraiment très gênant. À chaque période de bilan, on faisait un bilan tous les 6 mois, je lui demandais, dis-moi, quel autre groupe tu as en vue pour pouvoir bouger au sein de la société et garder ton boulot? 6 mois plus tard, je reposais la même question, parce que c'était clair qu'il n'était plus moteur dans l'équipe. Les bilans, c'est un peu comme les notes à la fac. Les employés qui produisent vraiment sont ceux qui touchent le plus et qui grimpent dans la hiérarchie. À un moment, j'ai fait partie de ces gens-là. Ça a duré à peu près 1 an. J'ai eu 2 fois de l'avancement en très peu de temps. On m'a donné un gros paquet de stock options. Mon salaire a augmenté. Les gens qui touchent le plus sont ceux qui produisent. C'est ça qui compte.
En tant que chef, tout ce que je faisais, c'est transmettre les bilans, attendre que les répartitions de stock options me soient communiquées.
Ça passait forcément par moi, les hausses de salaire et de stock options. Et si elles ne me convenaient pas, je pouvais aller voir la direction et dire « Non, non, ce gars-là mérite plus » ou bien « Pourquoi celui-là en a autant ?» Je m'arrangeais pour que ce soit plus équitable. Après, j'allais voir les gens qui bossaient pour moi, et j'essayais de faire passer la pilule. Tout ça était lié.
C'est dur de savoir que ton voisin va gagner plus de stock options ou d'argent que toi. C'est dans ces moments-là qu'on était un peu en compétition. Les chefs sont censés classer les gens de leur équipe. Et ils gèrent ce qu'on appelle le canot de sauvetage. Pour savoir qui est-ce qu'il faudrait balancer par-dessus bord si on ne devait garder que les meilleurs. Dans ces moments-là, c'est un peu chacun pour soi. Mais ça n'a rien de personnel. Ça ne dépend que de la qualité du boulot. Les gens s'en rendent bien compte, alors ils travaillent plus et mieux.
J'étais devenu incapable de programmer. Ils m'ont gardé un moment et puis ils m'ont dit que si je cessais d'être productif, il allait falloir que je parte. Mais j'ai dit OK.
À mon sens, je ne suis pas vraiment parti en bons termes avec eux. Ça m'a laissé un peu insatisfait.
Microsoft ne cherche pas à garder les gens très longtemps. Ils considèrent que des nouvelles têtes qui ont travaillé ailleurs ou qui sortent de l'école apporteront des idées nouvelles. Alors que quelqu'un qui est dans la société depuis 10 ou 15 ans risque d'être un peu figé. Mais on passe tant de temps au boulot qu'on a peu de chances d'aller se changer les idées. Je ne parle même pas de connaître d'autres produits. On n'a pas le temps. C'est pour cette raison que Microsoft, en tant que société, va te dire d'aller voir ailleurs.
This is Morning Edition from NPR News. I'm Bob Edwards.
Je n'aurais jamais pu supporter ça si j'avais commencé tout de suite après la fac. D'abord parce que ça aurait été un choc culturel dans cette boîte où il n'y avait que des hommes et des blancs. En 1990, j'ai été embauché à plein temps comme chef de projet et j'ai fini à la gestion des ressources humaines. Mon boulot consistait essentiellement à diversifier le personnel, à attirer des gens de couleur et des femmes chez Microsoft. J'en étais arrivé à un point où je ne supportais plus de prendre des gants, de faire attention à ceci, de me méfier de cela. On parlementait pendant des heures et il ne se passait pas grand-chose. Finalement, j'ai eu envie que les choses changent. Ça ne me gênait pas du tout d'envoyer un mail directement à Bill Gates. Je ne me souciais plus de la voix hiérarchique, à attendre que la personne juste au-dessus de moi parle à son supérieur et ainsi de suite. On n'obtient jamais rien de cette façon. À partir de 1996, j'ai compris que le moment était venu de partir. J'avais besoin de faire autre chose, comme ce que je fais maintenant. Je me lève à 5 heures du matin et ma journée de travail commence à 6 heures. La Fondation pour l'accès à la technologie est née de mon expérience. J'étais la seule personne de couleur dans le domaine de la technologie et j'avais envie que ça change. Notre programme part du principe que les enfants deviendront forcément des utilisateurs, des fournisseurs ou des inventeurs de technologie. On est très strict avec nos élèves. On n'a pas envie de placer la barre trop bas. Dans notre société en général, on met la barre trop bas pour les enfants de couleur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réussite.
It's actually not bad though. It's only 13 megs, which is like, you know, it's big. I mean, you wouldn't want to download it if you didn't have like DSL.
Yeah.
Other stuff going on. I mean, 13 megs is not bad.
Rules are there. No saggy pants.
La règle ici, c'est pas de pantalon baggy, pas de casquette, pas de t-shirt court, rien de mini, pas d'ongles trop longs. Ça, c'est pour la tenue. Pas d'insultes, pas de bagarres. Trois retards équivalent à une absence et au bout de six absences, vous êtes viré du cours.
Hey, how you guys doing? J-Boy, what are you guys working on?
I figured out how to shrink the size. Originally, the size was like that big. It was probably like, you know,
just freaking the computer out, basically.
And so, are you guys working on, what happened to your class? Where's, I know CG's on vacation. Where's Eric?
Eric's on the Black College tour.
Goodness gracious. So you guys are working on Premiere?
Yeah.
Mm-hmm. Okay.
Je considère que nos élèves doivent apprendre les règles du jeu. En disant cela, je n'exige pas qu'ils jouent le jeu, mais ils doivent au moins en comprendre les règles. Après ça, s'ils ne veulent pas les suivre, ils auront les moyens de trouver une alternative. C'est tout à fait typique du monde de l'entreprise américaine. Chacun doit être là où il faut quand il le faut. Par contre, si tu ne connais pas les règles ni comment ça fonctionne, ce qui est typique des gens de couleur et des femmes, parce qu'on a été maintenu à l'écart pendant très longtemps, eh bien c'est très difficile de grimper dans la société. C'est très dur de savoir ce dont on a envie exactement, sur qui on peut compter, ce qu'on peut dire et ne pas dire. Par contre, c'est un jeu que les petits blancs apprennent à maîtriser dès l'enfance, si bien que quand ils se retrouvent dans le monde de l'entreprise, ça ne les change pas beaucoup.
Okay. You might want to talk to Jason about using Photoshop.
Image in the side of the page.
And that's a lot of what is going to happen when you go to work, too. It's like your work is already going to be specced out for you. And you just have to do it to spec. The only difference here is that you're writing the spec, but you're kind of writing it to what the customer wants. But you still don't have any control, really, right? So, but once you start, you know, getting a couple years under your belt, you can have control. They'll start giving it to you. Just takes time. Yes? Mm-hmm. Who's the captain? You're the captain? Okay. Cool. All right, I gotta work.
Je dessine des BD depuis l'âge de 8 ans. J'ai toujours aimé ça. Là, c'est l'histoire d'un couple qui aime voyager. J'ai pensé que ça pourrait servir à créer une marque de produits liés au voyage, qui serait reproduite dans des centaines, des milliers de journaux nationaux. On essaie de créer une marque en rapport avec le voyage pour éditer des livres de voyage et des vidéos, vendre des licences à des voyagistes, ce genre de choses. Je travaille avec une conseillère qui pense que ça devrait marcher parce que j'aborde cette activité artistique avec un esprit commercial. C'est comme Microsoft. Je prends un truc tout simple et je construis un empire. C'est pas mal comme objectif.
Dans ma famille, le travail était vraiment quelque chose de très important. Quand j'étais petite, le travail de mon père, il était médecin dans une petite ville, c'était ce qui comptait le plus. Et même par la suite, dans une certaine mesure, c'était le travail qui primait. C'était très important. C'est ce qui permettait de survivre, aussi bien sur le plan émotionnel, mental que social. Ça voulait dire qu'on pouvait manger et avoir un toit au-dessus de la tête. Le travail, c'était l'argent.
Thank you.
Ça peut paraître surprenant parce que la moitié des gens pensent que s'ils avaient assez d'argent pour ne pas travailler, ils resteraient chez eux. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que pendant notre enfance, papa et maman n'ont pas arrêté de nous dire qu'il fallait travailler. Tu dois avoir un métier, c'est comme ça que tu pourras nourrir ta famille. Et puis, avec les crises économiques, on vous vante la stabilité économique, et tout ça maintient la pression. La morale du travail. Il faut avoir un travail.
Ma famille n'avait pas beaucoup d'argent. C'est ma mère qui m'a élevée toute seule. Et pour vivre, elle faisait des ménages, autant dire qu'on ne roulait pas sur l'or.
C'est une histoire qui a été un peu enjolivée, mais je pense qu'elle est vraie. Un jour, mon père est rentré en ayant perdu un contrat important qui devait lui rapporter gros. Il s'est dit, ça y est, je suis pauvre. Alors il est allé s'acheter une chaîne stéréo très chère en se disant que quelqu'un qui s'achète une stéréo à ce prix-là ne peut pas être pauvre.
Quand j'étais gamin, l'argent qu'on voulait dépenser, il fallait d'abord le gagner. J'ai suivi une courbe exponentielle. J'ai vu ma puissance de programmation et mon compte en banque augmenter de façon exponentielle. La sanction a été à la mesure de la complexité des systèmes sur lesquels je travaille. Est-ce bientôt la fin? Pendant une courte période, quand elle a été lancée sur le marché, l'action Sunhawk a atteint des prix faramineux. À moi tout seul, j'avais un portefeuille de 27 millions de dollars. Aujourd'hui, elle représente dans les 2 millions de dollars. J'ai donc perdu 25 millions sur les 27 qu'elles étaient supposées valoir. J'avais beaucoup investi sur le marché de la technologie, dans mes propres actions et dans Microsoft. Mais ça n'a pas marché, et il ne me reste qu'une infime partie de ce que je possédais à l'époque. Mon but n'a jamais été de devenir riche, de ne pas travailler.
Considérez-vous comme une chance le fait d'être à la retraite si jeune?
C'est plus compliqué que ça. Je suis content de ne pas être obligé de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Si je trouve quelque chose qui m'intéresse, je peux le faire. Mais j'ai un peu de mal à trouver des centres d'intérêt pour remplir ma vie en ce moment. Le genre de choses que le travail vous apporte en général. Aller au boulot, avoir des choses précises à faire. Je n'ai plus ces repères. Et ça, certains le vivent mieux que d'autres.
Le travail vous structure par rapport à la société. Surtout quand vous n'avez connu que le rythme très intense de chez Microsoft. C'était toute votre vie et soudain il n'y a plus rien. Il faut trouver un moyen de le remplacer.
It's a tangled mess. Somewhere in here I should find an end. I've got 11,000 lights to get out of this tree.
Nice and not vegetarian.
All right. Okay. Cool. Everybody's working on their reviews.
I will be today.
They're due when? They're due Thursday.
Right?
Yep. They're due Thursday, and they're not tied to salary. They're not tied to anything like that, but they are tied to your professional and personal growth. The big thing I ask is that, you know, everybody not take anything personally, okay? I mean, because we're all one big team, we all try hard, but to be able to take a critical look at what is and is not working, it really is no reflection on anybody as a person, right? I've transferred a lot.
J'ai adapté ici beaucoup de ce que j'ai appris chez Microsoft. Jusque dans la façon dont on a organisé nos bureaux, ça aussi, ça vient essentiellement de Microsoft. En fait, je ne faisais pas vraiment attention à ce genre de choses, mais un jour, un de mes anciens amis de Microsoft est passé ici, et il m'a dit, « Dis donc, on se croirait dans nos bureaux. » C'est aussi dans la façon de gérer les choses. On gère exactement comme une entreprise. Notre objectif, c'est d'être les meilleurs dans ce secteur non lucratif en intéressant les enfants à la technologie.
You better hope I have enough work for you. I had a lot of work in the beginning of the year and nobody came in. Christine, how many points do you have?
44 points.
You have 44 points? Yeah. All right, I'll be back.
Is the M or the L?
Okay. She's got to be in here now.
J'ai gardé pas mal de choses de chez Microsoft. Beaucoup de choses qui viennent de Bill Gates. Mon éthique de travail a beaucoup changé par rapport à mes débuts. Mon attitude face à la vie. Je suis bien plus agressif qu'avant pour beaucoup de choses. Peut-être plus ambitieux. Je suis bien plus capitaliste que lorsque j'ai commencé à travailler. Je suis devenu un capitaliste invétéré. Et j'ai peut-être plus de mal à accepter les erreurs des autres.
Yeah.
That is so cool. It's about time.
Yeah. So we're getting an invitation to a black tie dinner in Washington, D.C. for June 4th. Yes. That is just entirely too cool.
Wonderful. The top five.
Top five. Well, there were 310 altogether. And then I don't know how many were in education, but there were a lot.
J'ai commis des erreurs en voulant appliquer des choses que j'avais apprises chez Microsoft. Les stratégies qui fonctionnent chez eux ne fonctionnent pas forcément dans des boîtes plus petites. J'ai sans doute dépensé trop d'argent dans la recherche et pas assez dans le marketing, dans la vente des produits. Quand vous avez une poule aux œufs d'or comme le DOS, c'est sûr que vous pouvez vous permettre d'investir 10 années de boulot pour développer Windows, de tâtonner sous 3 versions différentes. Au bout du compte, vous élaborez un système tellement performant que tout le monde l'achète. Après ça, c'est Windows qui devient la nouvelle poule aux œufs d'or. Et vous avez 10 ans devant vous pour investir dans l'espace Internet. C'est le genre de choses que j'ai apprises. Il faut compter 10 ans d'investissement pour mettre au point un produit qui rapporte vraiment. Après ça, ça ne peut que marcher. En 10 ans de recherche, vous obtenez un logiciel vraiment génial. Malheureusement, le maillon qui me manquait, c'est que je n'avais pas de poule aux œufs d'or pour pouvoir investir au départ. Du coup, j'ai dépensé tout ce que m'avait rapporté Microsoft pour monter Sunhawk. Je vais vous montrer ce qu'on a entreposé au sous-sol. Dans cette pièce, on va installer les serveurs Sunhawk. En gros, on va se retrouver à la cave. On a tiré une ligne là dans le coin. On a branché un routeur et on a vérifié que ça fonctionnait. On va tirer cette table et on va mettre notre rack principal ici, avec les 6 serveurs Dell et tous les disques durs qui servent à mouliner les partitions. Et ça, ce sera notre moniteur de contrôle. Sunhawk va redevenir un petit atelier en sous-sol. Lovest of trees, the cherry now, his whole earth blooms along the bough. Come on, baby, let's rock and roll tonight. Stand along this woodland ride, wearing white for Easter time. Come on, baby, let's rock and roll tonight.
Je continue à dire « on » quand je parle de Microsoft. Ça me vient tout seul. Quand ils sortent un nouveau produit, je dis « on ». Je continue à en faire partie. En fait, j'étais d'accord avec eux quand ils ont décidé que je devais partir. Ils avaient raison. Je ne leur en veux pas. C'était la bonne décision à prendre en termes de gestion. Mais je suis un peu dépité de constater que j'ai perdu la partie et que je ne suis plus capable de programmer. Il y a forcément autre chose dans la vie que les ordinateurs. Mais à l'époque, c'était toute ma vie. Se lever pour aller bosser, passer des heures et des heures devant l'écran et puis rentrer chez soi. Vous savez, j'étais gamin quand j'ai commencé à jouer avec les ordinateurs, il y a 24 ans. Ça fait un bail que je bidouille. Mais maintenant, quand je me retrouve devant pour bosser, ça ne me procure plus aucun plaisir. Il n'y a plus rien qui me titille, qui me donne vraiment envie de m'y remettre. Si je regrette d'avoir quitté Microsoft, il y a des moments où j'aimerais retrouver la vie simple que je menais quand j'étais là-bas. Oui, il y a des moments où j'y retournerai volontiers. Mais c'est comme si on vous demandait, est-ce que vous aimeriez retourner au bac à sable? Oui, sans doute, mais ce n'est pas envisageable. Now of my 70, 20 will not come again. Come on, baby, let's rock and roll tonight. You take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. Come on, baby, let's rock and roll tonight.
Come on, baby, let's rock and roll tonight. Well, 50 Springs is little room to see the cherry all in bloom. Come on, baby, let's rock and let's roll tonight.
Come on, she has to.
So about these woodlands I will go to see the cherry hung with snow. Come on, baby, let's rock and roll tonight. Beep, 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 beep. Come on, baby, let's rock and roll tonight. Come on, baby, let's rock and roll tonight.